d'Arnaud Plugerie, directeur opérationnel et porte-parole d'Eau et Rivières de Bretagne.
Oui, bonjour à ceux que je n'ai pas salués. J'espère que j'ai déjà eu l'occasion de le faire pour tout le monde. C'est, comme tu le dis, Pauline, à moi que revient ce privilège de conclure cette conférence citoyenne, non, ce colloque. Alors moi, je trouve que ça ressemble à des conférences citoyennes, ce qu'on fait, alors j'utilise le terme, sur l'impact du changement climatique et la ressource en eau. Donc, merci au conseil d'administration d'Eau et Rivières, présent en grand nombre aujourd'hui, de me faire cet honneur et de me faire confiance pour conclure. Merci d'abord pour commencer à tous les intervenants. Je pense qu'on a la chance d'avoir vraiment une qualité chaque année d'intervenants et cette année l'a encore montré. Donc merci à vous, merci à toute l'équipe d'Eau et Rivières qui a préparé ce colloque. Le contexte de cette sécheresse pluriannuelle est assez emblématique des conséquences du changement climatique qui s'aggrave. C'est comment dire, visible pour tous. Il met aussi en lumière le décalage souvent entre l'adaptation réellement mise en œuvre dans l'urgence et celle qui serait nécessaire de planifier. Alors, je vais vous parler peut-être un peu plus dans cette conclusion du plan eau qui a été présenté par Emmanuel Macron jeudi dernier, parce qu'il contient des annonces qui étaient attendues depuis longtemps. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'elles seront suffisantes? Est-ce que les engagements qui ont été pris seront tenus? Chacun sera juge. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il faudra beaucoup de courage pour s'opposer au conservatisme et aux maladaptations et aller bien au-delà de ces conservatismes pour éviter que la guerre de l'eau se propage aussi en Bretagne et qu'on ne soit pas, qu'on n'ait pas cette vision qu'on a pu voir le week-end dernier comment dire, autour de Sainte-Soline. Alors, ce plan eau, il nous parle en 53 mesures, je vous invite à aller les regarder, hein, de sobriété et d'économie d'eau, pour commencer. Adapter notre modèle de gestion de l'eau, c'est avant tout mettre l'accent sur la sobriété. Nous constatons que les objectifs de réduire les prélèvements sont réaffirmés par le président, mais que les ambitions qui avaient été fixées par les assises de l'eau en 2019 ont été revues à la baisse. 10% d'ici 2030, en 2019, on parlait de 10% d'ici 2024 et on parlait même dans ces assises de 25% à horizon 2034. À Haut-Rivière, on pense que ce cap des 35% à horizon 25% à horizon 2035, pardon, doivent être maintenus. Je pense qu'il faut qu'on se souvienne que, notamment à l'appel d'Eau et Rivières de Bretagne, dans les années 80 et 90, à l'époque où Eau et Rivières s'opposait à la multiplication des barrages en Bretagne, la Bretagne, elle s'est déjà lancée ce genre de défi. Et on a vu des chiffres ce matin qui montraient que ce défi, elle a déjà su le relever, puisqu'on nous annonçait dans les années 80 des augmentations de consommation exponentielles. Et on l'a vu, les chiffres ont démenti finalement les pronostics et on le doit à la mobilisation de tous. Et parmi cette mobilisation, Eau et Rivières y a pris sa part. Pour parvenir à cette sobriété, Emmanuel Macron a parlé de l'usage domestique de l'eau. Tant mieux. L'annonce du soutien de l'État à la tarification progressive est une excellente nouvelle, même si on n'en a pas beaucoup parlé un petit peu ce matin. Cette mesure, elle est réclamée par les associations depuis des décennies. Ceci étant, elle relève de la décision des élus locaux et donc il faudra être très attentif pour qu'il y ait un déploiement effectif qui soit effectué. On a aussi évoqué beaucoup la semaine dernière, et on l'entend beaucoup dans de nombreux colloques, les solutions techniques comme la réutilisation des eaux usées et aussi le développement des technologies hydroéconomes. Elles ont leur place dans le panel des réponses à apporter, c'est ce que l'association a toujours dit, mais elles ne suffiront pas. Concernant la réutilisation des eaux usées en particulier, elles présentent des coûts importants et s'il peut s'agir d'une bonne idée à l'échelle de sites industriels, en sortie de station d'épuration, elles ne seront pas sans conséquences. Et on peut aussi penser que dans certains cas, elles conduiront à assécher nos rivières ou à un moment où elles sont le plus fragiles. Donc, c'est un point de vigilance que l'association souhaite mettre en avant. En matière d'économie d'eau, toujours, la longue expérience accumulée par Aurivière dans ce domaine nous permet d'affirmer que la technologie n'est pas la seule réponse et que les économies se gagnent aussi dans les comportements et la responsabilisation des utilisateurs. Pour cela, il nous faut améliorer la connaissance des usages et investir le champ de l'éducation et de l'information. On sera donc très attentif à ce que les actions 7 et 8 du plan, qui parlent d'éducation à l'environnement, soient réellement mis en œuvre, et on se tient, comme on l'a toujours fait, à la disposition des services de l'État et du rectorat d'académie pour partager avec eux nos savoir-faire et nos outils, comme la malle Gaspido, inventée par Aurivière à la fin des années 90, ou le bus économie d'eau créé par notre équipe éducative et qui sillonne déjà la Bretagne depuis quelques années. Mais on n'a pas l'intention de s'arrêter là, et le conseil d'administration, en lançant le projet Ville engagée pour l'eau et en créant en 2022 une commission régionale eau et climat, a bien l'intention de se mettre en situation d'accompagner les collectivités et les entreprises volontaires dans ces démarches de sobriété. Deuxième axe du plan, la disponibilité et la qualité de l'eau. Accroître la disponibilité, c'est d'abord restaurer le grand cycle. On peut se réjouir de la reconnaissance par le chef de l'État de la nécessité de réinventer les modèles agricoles, je le cite, hein, et faire évoluer les logiques de stockage de l'eau. Nous pensons, en effet, et on l'a toujours affirmé, que la solution, c'est d'abord le stockage naturel dans les sols. À ce sujet, voir apparaître la notion d'hydraulique agricole parmi les 53 mesures du plan n'a pu que réjouir notre ami Guy Le Hénaff, que vous venez d'entendre, puisque c'est le premier, en tout cas, c'est l'administrateur que j'ai le plus souvent entendu parler de petite hydraulique agricole. De la même façon, la protection des zones humides ont été évoquées dans ce plan, dans la mesure 20, ainsi que la mise en œuvre de 70 opérations phares de solutions fondées sur la nature, dont une dizaine, je crois, concerneront le bassin Loire-Bretagne. On trouve aussi dans ce plan 100 millions d'euros alloués à la désimperméabilisation, qui sont donc des opérations que les associations et Aurivière ont toujours soutenues. Est-ce que ce sera suffisant? Bien sûr que non. Il faudra aller beaucoup plus loin. Car on oublie souvent que les deux tiers des eaux de pluie proviennent de l'eau issue de l'évapotranspiration des plantes et des sols, car seulement un tiers des pluies proviennent de la mer et des océans. Par manque de vision globale, la capacité de nos territoires et de nos paysages à stocker l'eau a fortement diminué depuis 60 à 70 ans, compte tenu de très nombreuses activités humaines impactant à effet cumulatif. À cela, nous devons opposer une augmentation de la rétention naturelle de l'eau au sein des paysages résilients, en cultivant l'eau verte et en ralentissant l'eau bleue, comme l'a si bien montré Guy à l'instant. Les enjeux liés au changement climatique exigent des efforts massifs, cohérents et immédiats. L'État et les services publics ne sont pas toujours au bon niveau d'intervention. Il faut aider aussi les collectivités territoriales à mettre en place une reconquête active de la résilience de nos territoires. Il faut recréer à grande échelle un cycle de l'eau vertueux en favorisant l'infiltration des eaux de pluie et en végétalisant l'ensemble des territoires pour obtenir un effet majeur. Cela nécessite de corriger les erreurs criantes réalisées au siècle dernier à grands coups de bulldozer, en ayant recours souvent à de l'hydraulique dure, du béton, du curage, de l'enrochement ou des drainages. On ne peut pas non plus gérer que la rareté. Il faut aussi protéger nos captages de toutes les pollutions et réhabiliter ceux qui ont été fermés pour cause de dégradation dans les années passées. En la matière, le discours du chef de l'État sur l'agriculture tranche quelque peu avec les positions de son gouvernement, qui sont en soutien systématique à un modèle agricole industriel productiviste. Le « en même temps », en la circonstance, n'a pas sa place ici. Nous ne pouvons pas ignorer les signaux parallèles alarmants. Les décisions répétées autorisant des élevages ou des méthaniseurs qui accroissent les pollutions et les risques qui pèsent sur les milieux naturels, l'indifférence envers les agressions des lanceurs d'alerte environnementaux ou encore la demande du ministre de l'Agriculture auprès de l'ANSES qu'on vient d'évoquer à propos du S-métolachlore. Nous attendons donc des actes et des actes cohérents. Nous serons donc extrêmement attentif au déploiement de certaines mesures, comme celles qui vont de 22 à 23, je vous ramène au document, qui visent à mieux protéger les aires d'alimentation des captages, des pollutions par les pesticides en particulier, en promettant l'introduction dans la prochaine loi d'orientation agricole d'une priorité donnée aux installations en agriculture biologique dans ces aires d'alimentation de captage. Mais pour obtenir des résultats significatifs en Bretagne, il faudra avoir le courage de réinterroger urgemment la stratégie captage prioritaire et passer de la logique des périmètres de protection à celle d'une réelle protection par des aires d'alimentation sur l'ensemble de nos captages bretons. Dernier axe de ce plan, celui qui concerne l'atteinte des objectifs en repensant les gouvernances. Le plan prévoit en effet de donner plus de place aux commissions locales de l'eau, à des commissions locales de l'eau qui seraient modernisées, à qui serait confié le soin de définir des usages, des priorités d'usage, afin de mieux répondre aux prochaines crises qui ne manqueront pas d'arriver. Monsieur Giton, tout à l'heure, nous a rappelé que ces outils existent déjà. La volonté de les mettre en œuvre, le courage, beaucoup moins. Le monde de l'eau doit se débarrasser des trajectoires biaisées par les acteurs privilégiant leurs propres intérêts. Le ménage commence à s'opérer chez les délégataires de services publics. Il doit se poursuivre. Mais l'eau est un bien commun qui doit bénéficier de politiques publiques ambitieuses et objectives. Un renouvellement générationnel important va avoir lieu au sein du monde agricole. L'avenir proche nous offre une chance de corriger la trajectoire funeste de ces 50 dernières années. Et si les agriculteurs de demain étaient des paysans, producteurs de nombreuses aménités ancrées dans la vie des territoires, garants d'une véritable souveraineté alimentaire, protecteurs efficaces de la biodiversité, et qui plus est, reconnus comme de véritables cultivateurs d'eau, dans une solidarité apaisée entre ville et campagne, producteurs et consommateurs, amont et aval, ensemble du vivant et générations futures. C'est notre vœu, c'est notre appel de l'eau, l'appel de l'eau de Hauts-Rivières de Bretagne. Merci à tous.